Vous écoutez, on lit pour vous.
La misère près de chez nous. Un texte de Mathieu Bélisle paru le 1er mai 2024 dans la presse. J'habite Montréal depuis 30 ans. Et je ne me souviens pas d'avoir vu autant de misère à l'air libre. J'ai l'impression d'être revenu aux années 1990, celle de la récession, du grunge et des guerres de motards, sauf qu'à cette époque, c'est Montréal presque tout entier qui était pauvre. On pouvait tirer le diable par la queue et habiter un vieux loft délabré du Mile End, vivre à 5 dans un 7,5 sur le plateau Mont-Royal, louer une chambre pour 3 fois rien. Et jusqu'au tournant des années 2000, il était encore possible pour des jeunes dans la vingtaine de devenir propriétaires. Imaginez, dans Rosemont, on trouvait des duplex pour moins de 150 000 $. Cette époque est maintenant révolue. Montréal est passé de ville pauvre à ville chère. À l'heure de la gentrification et de l'Airbnbisation, alors que toujours plus de gens arrivent en ville sans qu'on construise assez pour les accueillir, les plus vulnérables sont refoulés dans la rue. Ils ne peuvent plus se cacher dans des maisons de chambre et des refuges. Ils n'ont même plus le luxe de squatter des immeubles à l'abandon ou d'occuper des terrains vagues. Les trous se sont remplis. Les espaces libres sont devenus rares. Les condos et les maisons de ville poussent partout. Les tours de bureaux se dressent comme des flèches dans l'azur. Les plus riches vivent en hauteur, dans leur loft ensoleillé, tandis que les pauvres restent tout en bas, dans la pénombre. On les retrouve jusque dans les souterrains, où ils vivotent au milieu des saletés. L'autre jour, à la station Côte-des-Neiges, j'ai compté une bonne dizaine de personnes dormant à même le sol. Il y avait quelques sans-abri typiques, désolé de le dire ainsi, mais aussi, chose inhabituelle, 2 femmes plutôt jeunes, étendues tout près du guichetier pour s'assurer d'un minimum de sécurité. À la station d'Iberville, dans l'est de Villeray où j'habite, on trouve toujours le bon Michel, assis à côté de la porte, qui fait la quête en offrant ses conseils de cinéma. Il a longtemps travaillé dans un club vidéo qui a fermé. Mais autour de lui, on aperçoit désormais une nouvelle faune, composée de sans-abri et de mendiants, de vendeurs et de consommateurs de drogue, de migrants et de femmes qui font la rue, autant de gens pour qui l'édicule est devenu un asile. Le plus terrible, c'est qu'on s'habitue à cette misère. Les pauvres gens, on les remarque au début, surtout s'ils sont en crise ou qu'ils sentent, puis on finit par ne plus les voir. Parce que la vie nous presse, qu'il y a mieux à faire. Et si on ne les voit plus au bout d'un moment, c'est aussi parce qu'ils nous renvoient au visage une réalité qu'on préfère ignorer. Ils nous offrent le triste spectacle des écarts de richesse, de la violence ordinaire et de l'indignité. Au Québec, nous avons encore de la difficulté à penser le pouvoir et les rapports de force, à admettre l'existence des classes sociales. L'élite se distingue par son refus de la distinction. Et nous aimons croire que tout le monde vit grosso modo dans les mêmes conditions, que tout le monde fait partie de la même étoffe, tissée, serrée. Pendant longtemps, la messe du dimanche a servi de grande égalisatrice. Les quelques riches et les nombreux pauvres se réunissaient autour du rite de la communion pour entendre le sermon du prêtre. Quand la religion est tombée, la télévision a pris le relais. À heure de grande écoute, elle nous a offert et nous offre encore l'occasion de nous réunir autour de quelques symboles, d'une chanson, d'un rire ou d'un verre de vin. Maintenant que le pouvoir de la télévision faiblit, ce qui nous rassemble n'est plus clair, ce qui nous sépare devient chaque jour plus évident. La fameuse classe moyenne, dont tout le monde parle, que les politiciens et les médias courtisent, tient en bonne partie de l'illusion. Car, selon les critères de l'OCDE, appliqués aux revenus des ménages québécois, une personne seule qui gagne $31 000 par année et un couple avec enfant qui gagne $253 000 par année font théoriquement partie de la même classe dite moyenne. Peut-on croire sérieusement que ces gens appartiennent au même monde? Depuis quelques années, c'est l'existence de ce fossé que la littérature québécoise contribue à révéler. Je pense à « Que notre joie demeure » de Kevin Lambert, qui montre que la conscience de classe rend aveugle aux misères de ceux qu'on chasse d'un quartier à coups de rénovictions et de projets domiciliaires. Je pense à « Là où je me terre » de Caroline Dawson, qui rappelle qu'aux yeux des nouveaux arrivants, ce sont souvent les Québécois de souche qui passent pour les maîtres et les favorisés. Comment oublier cette scène poignante où la jeune Caroline, en visite chez une amie dans un beau quartier de Brossard, se rend compte qu'après la fête, c'est sa mère Natalia, humble femme de ménage, qui devrait tout nettoyer. Je pense enfin à « Rue du Plessis » de Jean-Philippe Plot, qui révèle que la pauvreté n'est pas seulement une affaire d'argent, mais aussi d'éducation et de culture, que les pires barrières sont souvent invisibles, l'analphabétisme par exemple. Ces auteurs, et d'autres encore, comme Sophie Bienvenue et Francis Ouellet, nous invitent à reconnaître que nous n'avons pas tous la même chance, que bien des choses en ce monde ont besoin d'être réparées. Ils nous révèlent une société, la nôtre, marqué par de nombreuses déchirures, Plot, où la richesse des uns fait parfois, hélas, la misère des autres. C'était « La misère près de chez nous », un texte de Mathieu Bélisle, paru le 1er mai 2024 dans la presse.
Ripley, Dolce Vita et meurtre de sang-froid. Un texte de Benoît Mignot, paru le 22 avril 2024 dans le magazine Fugue. Tiré du roman à succès de Patricia Highsmith, publié en 1955, la série Ripley nous fait suivre les machinations de Tom Ripley, un escroc de petite envergure, alors qu'il se réinvente et joue un habit-jeu du chat et de la souris avec les proches de ses victimes et les forces de l'ordre. Le résultat est à la fois inquiétant et fascinant. Le roman a déjà connu deux adaptations. Plein soleil, réalisé en 1960 et mettant en vedette Alain Delon et Maurice Ronet, et en 1999, The Talented Mr. Ripley, le talentueux Monsieur Ripley en version française et l'énigmatique Monsieur Ripley en version québécoise, avec Matt Damon et Jude Law. Cette fois-ci, c'est au tour d'Andrew Scott, Sherlock, Fleabag, dans une production Showtime réalisée pour Netflix, d'endosser les atours d'un anti-héros complexe à incarner, puisqu'il suscite à la fois l'admiration et l'horreur. L'action se campe en 1961. Un riche industriel demande à Tom Ripley de se rendre en Italie afin de convaincre son fils Dickie, Johnny Flynn, de revenir aux États-Unis. Celui-ci accepte immédiatement, histoire d'échapper à sa misère, mais il cache cependant un double jeu puisqu'il a bien l'intention de s'incruster dans la vie du jeune homme et, pourquoi pas, d'y abandonner son passé. Il faut dès le départ souligner le choix audacieux d'opter pour une photographie en noir et blanc qui, combinée à certaines prises de vue biscornues, offre des images d'une beauté saisissante tout en générant une impression de malaise. Ce choix esthétique magnifie une reconstitution d'époque soignée, l'élégance des quartiers chics, de même que le côté sordide de certains lieux où la crasse semble encore plus crasseuse. La série baigne également dans une trame musicale constituée des grands succès de la chanson pop italienne de l'époque. Contrairement aux précédentes adaptations, le côté queer de Ripley est plus clairement établi, notamment au gré des regards qu'il jette aux hommes à la dérobée. Cette marginalité est accentuée du fait que, véritable poisson hors de l'eau, Ripley pénètre dans un univers dont il ignore tous les codes et où il doit faire semblant d'être ce qu'il n'est pas. Il est cependant doté d'un atout majeur, un grand sens de l'observation et des qualités de mimétisme impressionnantes. Alors qu'il met en place son entreprise de séduction, il affronte le regard scrutateur de Marge, Dakota Fanning, la petite amie en poste. Dickie, de son côté, perce rapidement l'hétérosexualité de pacotille de Ripley et s'esclave même ouvertement lorsque ce dernier mentionne aimer les filles. L'arrêt de mort de Dickie sonnera cependant le jour où il prononce, coïncidence ou ultime affront, des propos homophobes à l'endroit d'un groupe de culturistes. Dans une scène d'une rare violence, Ripley élimine froidement le jeune homme et usurpe ensuite son identité. On sait que l'appétit vient en mangeant, et face à de nouvelles anicroches, il replonge avec flegme dans ses solutions meurtrières. La série ne ménage d'ailleurs pas le spectateur en présentant le dur labeur de chacun des crimes, ce qui les rend d'autant plus monstrueux de banalité. Le dernier épisode amène un retournement de situation particulièrement bien ficelé, alors que Tom se transforme, devient à la fois remarquable et remarqué, et que l'on saisit la finesse de chacun des engrenages qu'il a mis en place. Comble de l'ingéniosité, dans une œuvre en noir et blanc, il met en scène une utilisation diabolique des jeux d'ombre et de lumière pour échapper à l'inspecteur de police qui était ses trousses. Malgré un déroulement un peu lent, la série constitue un véritable plaisir pour les yeux, tout en offrant des scènes saisissantes et percutantes. Pour ceux et celles qui s'étonneraient de la présence de John Malkovich dans un passage éclair, il faut savoir que l'acteur a interprété ce même rôle dans Ripley's Game, Ripley s'amuse en version québécoise, adaptation du troisième volume de la série de romans. La scène se veut une métaphore astucieuse où l'ancien Ripley passe le relais au nouveau, qui assume ainsi pleinement son identité criminelle. Info. Les 8 épisodes de Ripley sont disponibles sur Netflix en anglais et dans un excellent doublage en français. C'était Ripley, Dolce Vita et Meurtre de sang-froid. Un texte de Benoît Mignot paru le 22 avril 2024 dans le magazine Fugue.
Une maison pour les monstres. Un texte de Rose-Aimée, Automne, T. Morin, paru le 20 avril 2024 dans La Presse. C'est la 12e fois que je me présente chez des inconnus simplement parce que leur demeure m'impressionne. Or, c'est la première fois que je cogne à la porte en espérant pouvoir interviewer un enfant. Bien que la maison soit mignonne et voisine de celle ayant longtemps appartenu à Leonard Cohen, c'est une feuille posée contre une fenêtre qui m'a interpellée. Maison pour les monstres et les animaux magiques qui ont perdu leur maison. C'est signé Tristan. Comme moi, des passants s'arrêtent régulièrement pour lire l'affiche et même la photographier. Je crois que c'est le mélange de pureté et d'audace qui nous touche. Il faut être courageux pour inviter les monstres chez soi. Les monstres gentils, précise Tristan, 7 ans, en m'accueillant chez lui. Et quel chez lui! Si la façade laisse présager quelque chose de coquet, l'intérieur n'est rien de moins que spectaculaire. La maison a été construite en 1885. À l'époque, il y avait 2 bâtiments sur ce terrain du quartier portugais de Montréal. De précédents propriétaires les ont réunis avec un couloir vitré. En 2015, Emily Heckman et Michel-Alex Lessard ont eu un coup de cœur en visitant l'endroit. C'était comme une maison de poupée. J'aimais l'intimité des lieux et le fait qu'il y ait plein de cachettes. Le couple a habité la demeure pendant 5 ans avant d'entreprendre de vastes rénovations. Emily Heckman et Michel-Alex Lessard ont alors découvert que les murs étaient isolés avec des boîtes de conserve aplaties, qu'ils marchaient sur 5 planchers différents, empilés au fil des années, puis que les fondations de leur maison étaient en fait deux troncs non taillés. Deux arbres tiennent la maison, lance Émilie avec émerveillement. C'est magnifique. Bref, il y a de l'âme ici, croit Michel Alex. D'ailleurs, des passants cognent souvent à leur porte pour raconter avoir vécu telle ou telle chose ici. Un photographe a même laissé une lettre parce que, selon ses recherches, la maison aurait été liée au Front de libération du Québec. Sans oublier Cohen. La demeure a appartenu au poète Michel Garneau, ami et traducteur du célèbre artiste. Les voisins aiment rappeler au propriétaire que Leonard traînait jadis là où ils vivent. Le mur de Tristan. Mais les histoires ne sont pas que le propre du passé. En fait, le mur qui traverse le rez-de-chaussée du salon à la cuisine, nommé le mur de Tristan, en est couvert. L'enfant dessine chaque jour une quinzaine de séries d'environ 5 pages et elle raconte beaucoup de choses, m'explique-t-il. Je souris en découvrant l'histoire d'un cirque ambulant. Un train laisse les artistes à destination. Des hommes forts font une pyramide sur un éléphant. Des fauves sautent dans des cerceaux devant des spectateurs ahuris. Des trapézistes s'élancent au-dessus de zèbres. Et enfin, la troupe repart dans son train. Les girafes dépassent d'un wagon parce que leur cou est trop long pour nos modestes moyens de transport humains. Mon coup de cœur revient toutefois à la série nommée « Le réseau alimentaire de l'Amazonie ». Un perroquet déguste des fruits. Un serpent mange le perroquet. Un crocodile avale le serpent. Un léopard dévore le crocodile. Le léopard défèque et sa crotte nourrit des insectes. Elle nourrit aussi les plantes, précise Tristan. Je me tourne vers sa mère, impressionnée. Il ne regarde pas la télé. Il écoute beaucoup de balados et il adore ça. La préhistoire le passionne. En fait, tout ce qui est relatif aux origines l'intéresse. Comment ça a commencé et d'où ça vient? Il s'est mis à lire tout ce qu'il pouvait sur les animaux. Il est d'ailleurs très perturbé si on dénature leur habitat naturel. Une fourmi qui s'aventure dans la maison ne devrait pas en être chassée, selon Tristan. Il aimerait me donner sa version de l'histoire, maintenant. Je le suis dans les escaliers qui dévoilent un second étage rempli de cachettes et une immense fenêtre. En s'assoyant sur son lit, Tristan me demande si j'ai des questions pour lui. Bien entendu! Commençons par l'affiche au sujet des créatures magiques. Pourquoi sont-elles les bienvenues? J'ai lu un livre qui expliquait qu'une petite fille invitait les monstres chez elle. Julia et les monstres perdus, par Ben Atkey. J'ai eu l'idée de faire ça aussi. On a fait cette affiche au début de l'année dernière et on l'a mise dans la fenêtre pour que les monstres la voient bien. Et ce sont qui? Les monstres et créatures magiques? Les dragons, les licornes, les fées, les sirènes, tout quoi? Et comment perdent-elles leur maison? Et si elles vivent dans un arbre, peut-être que des gens ont coupé l'arbre? Cet enfant est effectivement sensible à la perte de l'habitat d'autrui, en plus d'être très accueillant. On devrait s'en inspirer. « Il y a des monstres qui ont cogné à ta porte jusqu'à maintenant, Tristan? »« Un seul. Le parrain de ma sœur en avait un, et il habite ici, maintenant. Quoique, je ne le sens pas très souvent. »« Est-ce qu'il est encore là? »« Je ne le sais pas parce qu'il est invisible. »« Ah, ben oui. Et sais-tu de quel type de créature il s'agit? »« Je crois qu'il est du royaume de la nuit. »« La plupart des animaux invisibles... » vivent dans le royaume de la nuit. Tristan se lève, éteint les lumières, allume une lampe de poche et la pointe vers un mur de sa chambre. Il utilise ses bras pour créer un dragon, son monstre préféré, en ombre chinoise. Je fais pour ma part un chien. Il n'est pas impressionné. Tout le monde sait faire ça. Puis, son dragon bouffe d'un coup mon chien. On redescend à la cuisine où nous attendent Émilie et Michel-Alex. Je leur demande s'ils croient aux monstres eux aussi. Absolument! Lui, c'est une petite créature magique, glisse Émilie en regardant tendrement son fils. C'était Une maison pour les monstres. Un texte de Rosemée Autonne T. Morin. Paru le 20 avril 2024 dans La Presse.
Un livre qui change une vie. Un texte de Jules Couturier, paru le 23 mars 2024, publié dans l'Itinéraire et dans La Presse. Son déchirant premier roman, La version qui n'intéresse personne, est arrivé comme une bombe pour secouer le monde littéraire à l'automne 2023. Depuis, il cumule les critiques dithyrambiques, les nominations à de prestigieux prix et trône encore dans les premières positions du palmarès des livres les plus vendus dans les librairies du Québec. L'Itinéraire s'est entretenu avec l'auteur dont l'œuvre aborde des sujets comme la marginalité et l'instabilité, dans la veine de ceux que notre magazine tient à mettre en lumière. La version qui n'intéresse personne se résume ainsi. Sacha, 18 ans, quitte son milieu pour s'aventurer au Yukon avec son meilleur ami Tom. Pendant des années, elle y côtoie d'autres marginaux, anarchistes et nomades, vit la grande liberté et s'amuse sans limite, jusqu'au moment où cette liberté, son meilleur ami et tout le reste de son village se retournent contre elle. Alors, son paradis se transforme en enfer. L'un des éléments les plus frappants du roman d'Emmanuel Pierrot est la place qui occupe le vécu. Comme son personnage, l'auteur a longtemps habité au Yukon, en plus d'avoir vagabondé dans divers autres coins du continent. En raison du cauchemar que traverse son personnage dans le livre, il est difficile de résister à la tentation de demander à l'auteur comment elle se porte. Réponse : elle va bien. Toujours dans l'attente des redevances pour son livre, il faut attendre 18 mois. Elle donne des ateliers d'écriture dans des universités et travaille à temps plein sur ses projets littéraires. Le succès du livre, ça règle bien des problèmes. Quand je suis revenu au Québec, je n'avais pas beaucoup de perspectives d'avenir. Maintenant, je peux quasiment écrire à temps plein. Ce n'était pas une attente, même pas un rêve, que j'osais avoir. Alors c'est un miracle. Et ça me sauve le cul, nous dit Emmanuel Pierrot. La fin d'une époque. Après plusieurs années au Yukon, d'où elle est revenue épuisée, avec beaucoup de choses en elle à réparer, la jeune femme de 29 ans a maintenant besoin de calme et de stabilité. Depuis 2020, elle s'efforce à ne plus être nomade. Elle vient d'ailleurs de signer un bail pour la toute première fois de sa vie pour un appartement dans Hochelaga-Maisonneuve. Emmanuel Pierrot nous assure qu'elle n'est pas complètement rangée pour autant. « Je suis encore entouré de marginaux, mais ce sont des marginaux plus sédentaires », rigole-t-elle. « C'est cette communauté qui l'a toujours fait vibrer, qui l'a accepté, qui l'a fait se sentir moins étrange, moins seul et plus en sécurité. » Ceci dit, on peut se faire ostraciser même par de soi-disant marginaux. Dans la version qui n'intéresse personne, le personnage de Sacha découvre le féminisme au Yukon et, naïvement, elle se dit qu'elle a juste besoin d'en apprendre un peu les codes pour pouvoir vivre dans un monde où tout le monde est égal. Mais elle va se rendre compte que c'est du vent, qu'il y a encore des non-dits, des choses qu'elle n'a pas le droit de faire en tant que femme, et elle sera rejetée tandis que d'autres personnages masculins jouiront d'une plus grande liberté sociale et sexuelle, sans se faire taper sur les doigts. Les gens en général ont de la misère à être cohérents avec leurs valeurs, estime Pierrot. Les bonnes intentions, être féministe, respecter le consentement, prôner la sororité, peuvent être sincères, mais elles sont tellement difficiles à appliquer. Les gens choisissent la facilité, leur survie, leur sécurité. La réalité est dure, encore plus dure pour les femmes, et parfois, le besoin d'assurer sa sécurité va l'emporter sur la solidarité. L'humain au-delà du politique. Si le roman de Pierrot fait réfléchir le lecteur à de nombreux concepts à la mode, comme la culture du viol, la misogynie intériorisée ou le slut-shaming, il était très important pour l'auteur et son équipe d'édition de ne pas nommer ces termes dans le livre. C'était important que ce soit vécu du point de vue d'une personne qui ne croit pas nécessairement à ça. Pas besoin de savoir ce qu'est la misogynie pour en être victime. Pas besoin de savoir ce qu'est la culture du viol pour la subir. Tu vas en faire l'expérience de toute façon. Si tu ne connais pas ces termes, tu as beaucoup plus de chances de renvoyer ces violences-là contre toi-même, de te haïr et de penser que tu ne mérites pas de vivre. L'auteur voulait laisser le choix au lecteur. Le personnage de Sacha est-il victime de ces phénomènes ou ne fait-il que vivre du rejet, un sentiment universel? L'auteur ne désirait pas faire un essai politique, mais seulement raconter une histoire humaine avec son cœur. Si le livre évoque finalement ces sujets malgré elle, c'est qu'il raconte sa vie et qu'elle est une femme. Je suis influencé par le courant beatnik, mais mes histoires à moi ne sont tellement pas comme celles de vagabondage insouciant que j'aurais aspiré à écrire, et ce, parce que je suis une femme. Une femme qui fait du pouce n'aura pas les mêmes anecdotes à raconter qu'un homme. L'histoire n'a pas le choix de devenir féministe. La suite, le prochain roman de Pierrot fera encore dans le réalisme sale, suivant une gang de bombes dans Hochelag, mais cette fois-ci, elle promet une histoire plus le fun, avec des thèmes plus positifs comme l'entraide. Au moment d'écrire la version qui n'intéresse personne, Emmanuelle Pierrot n'avait aucune expérience dans le monde littéraire, mais elle a su aller chercher l'aide nécessaire, notamment à travers un programme de mentorat de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois et l'accompagnement dévoué de sa maison d'édition. Forte de tout l'apprentissage acquis durant cette première expérience de publication de romans, elle se sent aujourd'hui beaucoup plus outillée pour la suite. C'était « Un livre qui change une vie », un texte de Jules Couturier paru le 23 mars 2024, publié dans L'Itinéraire et dans la presse.